Parmi toutes les créatures qui peuplent notre imaginaire, les dragons sont certainement les plus emblématiques et récurrentes du folklore médiéval fantastique. Rien d'étonnant donc à les retrouver en filigrane dans toutes les œuvres de From Software, de Demon's Souls à Dark Souls en passant par Sekiro. Souvent présentées comme les créatures les plus puissantes du monde dans lequel elles évoluent, elles manquaient peut-être jusqu'à présent d'un vrai background, d'une véritable histoire les entourant. Elden Ring vient corriger ce manque en donnant aux dragons un rôle majeur dans l'histoire du jeu. Quand vous arrivez pour la première fois en Entre-Terre, ces derniers ont d'ores et déjà disparu et ne sont plus que les vestiges d'une époque révolue. Mais cela n'empêche pas la diégèse du jeu de disséminer ici et là des indices sur leur passé mystérieux en plus de proposer des affrontements dantesques contre ces créatures. De leurs origines à Farum Azula jusqu'à leur guerre contre l'Ordre d'Or, cette vidéo détaillera toutes les strates de leur histoire, sans omettre ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et les rares survivants de ce peuple en extinction. Hello à tous, c'est Ludic, je vous souhaite une bonne année 2023 et bienvenue pour replonger dans l'univers fabuleux d'Elden Ring et l'histoire des dragons. Pour bien mettre en place notre récit, il convient dans un premier temps de bien faire une distinction importante, en différenciant deux types de dragons. Les dragons anciens, primordiaux, ceux ayant habité la région de Farum Azula et qui manipulaient la foudre, et les dragons qui leur ont succédé et sont les principaux survivants aujourd'hui, des dragons de feu, de glace ou encore au souffle putréfié. Concentrons-nous d'abord sur ces dragons anciens, qui étaient probablement bien plus nombreux par le passé, mais qu'on recense aujourd'hui au nombre de 4, Fortisax, Lanceax, Grand Sax et celui à leur tête, Placidusax. Ces derniers se distinguent par leur corps en granit, mais également par leur double paire d'ailes, contrairement à leurs congénères plus mineurs, qui pour cette raison ne sont pas spécialement réputés pour leur capacité à voler, mais nous y reviendrons. Sur le talisman de bouclier draconique, on peut lire que durant l'âge primitif qui précéda l'arbre-monde, les dragons régnaient en maître, et on raconte qu'ils protégeaient leur roi en formant un véritable mur de pierre. L'histoire de ces dragons est intimement liée à celle de Farum Azula, et remonte aux origines de l'Entre-Terre et à celle des civilisations antiques. Si vous avez déjà regardé ma vidéo à ce sujet, et je vous invite fortement à le faire, vous connaissez déjà mon idée selon laquelle Farum ne serait pas à la base une cité dans le ciel, mais bel et bien une cité qui était au sol, en entre-terre, et qui s'étalait très probablement sur les régions de Nécrolimbe et de la Caélide. Nécrolimbe, car c'est certainement l'endroit où l'on va retrouver le plus de fragments de ruines, des restes éparses de la forteresse de pierre qu'était Farum Azula, et qui s'effrite progressivement depuis le ciel. Mais également car on retrouve à Farum des faucons des tempêtes, créatures que l'on ne croise en nombre qu'à voile orage. Et la Caélide, car c'est assurément l'endroit où l'on croisera le plus de dragons. Ces derniers y étaient d'ailleurs bien installés avant que ne se joue la bataille d'Ivoine entre Malenia et Radahn qui ravagera la région avec la putréfaction, obligeant ces dragons à migrer vers l'est et donnant à cette région le nom de Tertre Draconique. C'est notamment vers cette région que l'on tombe sur le sanctuaire de Gurank le Clair Bestial, un sanctuaire qui de par son architecture faisait très probablement partie de la Farum Azula d'origine. Farum était donc le lieu de vie de ces dragons primordiaux, et ils étaient alors considérés comme les créatures les plus puissantes de l'Entre-Terre, avec à leur tête Placidusax, seigneur d'Elden. Sur le souvenir de ce dernier, on lit qu'il aurait été seigneur d'Elden avant l'âge de l'Arbre-Monde, et qu'après la fuite de sa divinité, il attendit patiemment son retour. Mais de quel cercle d'Elden et de quelle divinité parle-t-on ? L'Arbre-Monde n'existait pas encore. On peut donc supposer qu'il s'agissait d'un cercle d'Elden plus complet et majeur que celui que nous connaissons, potentiellement celui dont nous avons un aperçu au fond de l'arène de Malikheth. Quant à savoir à quelle divinité Placidus Axe obéissait, là encore c'est difficile à déterminer. Pourrait-il s'agir de Marika, qu'il aurait abandonné et trahi pour fonder l'Ordre d'Or ? Tout comme il pourrait s'agir d'une divinité liée au creuset primordial, à une époque où la volonté suprême et la flamme exaltée n'étaient pas encore ennemies, et cela reviendrait alors à parler de l'unique. Ce dont on est sûr, c'est qu'à cette période, les dragons anciens vivaient aux côtés d'une race de bêtes ténébreuses se déplaçant à quatre pattes, les hommes bêtes de Farum Azula, bien qu'à cette époque, ils ne portaient probablement pas encore ce nom. Peuple dont est issu le célèbre Malikheth à la lame d'ébène, et à qui ils apprirent notamment le maniement de la foudre. Difficile là aussi de statuer sur l'origine des hommes bêtes. Sorte d'hybride à mi-chemin entre le loup, l'homme et le dragon, sont-ils le fruit d'une évolution, ou même une création pure et simple des dragons destinée à les servir ? Étaient-ils là avant ? Chacun se fera son idée propre. Ces bêtes présentaient en tout cas un problème assez majeur, leur sauvagerie. Elles étaient incontrôlables, et c'est probablement pour cette raison qu'on en retrouve un certain nombre attachés au niveau des pattes avant et arrière à des poteaux, comme pour les canaliser ou les torturer. Ce n'est qu'à l'arrivée des humains à Farum Azula que la sauvagerie de ces bêtes commença à disparaître et qu'elles commencèrent alors à se dresser sur leurs deux pattes arrière. Si on s'intéresse au sort Vitalité Bestiale, on peut lire qu'après avoir reçu le don d'intelligence, les bêtes sentirent leur sauvagerie s'effacer à mesure que la civilisation s'installait. Je pense que c'est au même moment qu'on commença à leur affubler le vrai qualificatif d'homme bête. Ils purent alors utiliser des armes et des boucliers, tandis que les plus anciens d'entre eux, ceux à la fourrure blanche, étaient initiés à l'art de la magie de foudre. Un ordre clérical fut même instauré au sein des hommes bêtes. Comme nous l'indique la description de l'arme Cinque Dea, une épée courte attribuée au prêtre de haut rang de Farum Azula et qui symbolise l'intelligence conférée à ces êtres. C'est probablement de là qu'est issu le titre de Malikheth, qui est également appelé le clerc bestial. Intéressant d'ailleurs de voir le parallèle évident entre cet ordre clérical et celui établi par les Sanctes Chairs et la Reine aux yeux crépusculaires. Puisqu'on parle de Malikheth, le combat contre lui symbolise bien ce passage de la sauvagerie à l'intelligence, mais dans l'autre sens. Sur sa P1, Malikheth se déplace sur ses deux pattes arrière, debout, tandis que sur sa P2, il laisse sa sauvagerie l'envahir pour redevenir la bête qu'il était initialement, se mouvant sur ses quatre pattes. Pour ce qui est d'une présence humaine à Farum Azula, ayant amené la civilisation sur ses terres et le don d'intelligence aux hommes bêtes, elle est assez marquée et évidente. Je vous en parlais là encore dans ma vidéo sur les origines de Marika, mais on retrouve à Farum de nombreuses gravures représentant des humains. Parfois un homme muni d'un bâton, parfois une femme portant dans ses bras un enfant. Des gravures qui ne sont pas sans rappeler celles des civilisations antiques. Mais la preuve la plus évidente repose dans le choix de l'origine de départ de votre personnage juste avant de lancer une nouvelle partie. On y retrouve de nombreuses races, et parmi elles, celle des Draconides, un peuple des dragons anciens dont l'espérance de vie n'est guère élevée. Aucun doute donc sur une possible présence humaine à Farum Azula. Rien d'étonnant d'ailleurs selon moi à ce qu'on retrouve juste après la race des Nyxiens, que l'on peut associer à une autre civilisation antique, celle des Uld, et juste en dessous celle des Numènes, la race d'origine de Marika. Ce sont souvent ces petites informations anodines à côté desquelles on peut facilement passer, mais qui en réalité nous en disent beaucoup. Si tu regardes cette vidéo, que ça te plaît et que tu ne veux pas finir en rôti de dragon, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Bon visionnage. Alors pourquoi les dragons anciens ont-ils disparu aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Nous y reviendrons un peu plus loin dans cette vidéo, une fois que je vous aurai présenté les autres dragons, plus mineurs, qui parcourent le monde d'Elden Ring. Ces dragons sont des lointains descendants des dragons anciens qui peuplaient autrefois Farum Azula. A ce titre, ils n'ont pas un corps en granit, ce qui explique qu'ils peuvent saigner, les privant ainsi de l'immortalité que l'on associait volontiers à leur glorieux aïeul. Sur la description de la graisse de plaie dragonique, on peut lire que lorsque ces dragons naquirent, ils perdirent leurs écailles de pierre qu'arboraient leurs ancêtres. Celles-ci peuvent désormais être retournées contre eux pour leur infliger des blessures mortelles. Autre spécificité, ils n'utilisent pas la foudre mais un autre élément, et ils ne sont munis que d'une seule paire d'ailes, ce qui explique qu'ils ne sont pas connus pour leur capacité à voler. C'est sûrement à cela que Agil, le dragon volant, doit son qualificatif. Premier dragon que vous croiserez lors de votre exploration de Nécrolimbe, Agil est à la fois craint et adulé dans la région. Le personnage de Yura, chasseur de doigts sanglants, vous mettra en garde contre les dangers que représente cette créature, vous invitant à rester à distance raisonnable du lac. Mais si vous vous promenez non loin de là, dans les ruines calcinées, et que vous tendez l'oreille, vous entendrez des morts murmurant le nom de la bête.
Oh, Agil. Feral flame of Agil. Feral flame of Agil. Agil, oh Agil.
Comme nous le dit le sort Flamme d'Agil, ils priaient, espérant que le feu des dragons vienne les réduire en cendres, et leur accorde la mort, qui leur est inaccessible depuis que la mort destinée est confinée. Le prochain dragon sur notre liste se nomme Smarag, dragon de pierre d'éclat, dont on peut voir le nom comme une référence à Smaug, le dragon de l'univers de Tolkien, ou plus simplement comme un clin d'œil au fait que Smarag signifie émeraude en Afrikaans, une langue germanique issue du néerlandais et parlée notamment en Afrique du Sud. Smarag protège la clé qui vous permettra d'accéder à l'académie de Raya Lucaria. Pour autant, il n'est ni allié de l'académie, ni contrôlé par cette dernière. En effet, sur la description du souffle de pierre d'éclat de Smarag, on peut lire que ce dragon dévorait les sorciers et au fil du temps, leurs pierres d'éclat corrompirent son corps tout entier. Vient ensuite Adula, le dragon de Rani, un autre dragon de pierre d'éclat au souffle glacial, dont le nom peut être associé à l'Adula, un massif des Alpes à la frontière de la Suisse et de l'Italie. D'après le sort Lame Lunaire, on apprend que Adula était lui aussi un dévoreur de sorciers, avant de s'avouer vaincu face à Rani, il prêta alors allégeance à sa lune noire. On enchaîne avec plusieurs dragons se trouvant en Caelid. D'abord, Exiques le putréfié, seul dragon qui ne semble pas avoir migré vers l'est et le tertre draconique après la bataille d'Ivoine. Pour en connaître la raison, il faut s'intéresser au sort putréfaction d'Exiques. On y lit que, même après avoir succombé à la putréfaction écarlate, Exiques, le vengeur de la communion draconique, ne se départit jamais de sa haine. En réalité, Exiques reste donc à proximité de cette église de la communion pour se venger de ceux qui chassent les dragons dans l'optique d'obtenir leur pouvoir. Nous y reviendrons un peu plus tard. Parmi les dragons qui ont fui vers le tertre draconique, on retrouve Greyol, présentée comme la mère de tous les dragons, une gigantesque et majestueuse créature qui semble contrôler tous les dragons de la zone. Difficile cependant de classer Greyol parmi les dragons anciens, puisqu'elle n'en possède aucune caractéristique, mais on peut assurément la considérer comme la mère de tous les dragons post-Farum Azula. À proximité se trouve Grey, qui de par son nom doit avoir un lien très étroit avec Greyol et qui protège le pont permettant d'accéder au sanctuaire de Gurank. Le préfixe « Grey » dans leur nom semble appuyer leur caractère plus vieux, plus ancien par rapport aux autres dragons. Enfin, dernier dragon de cette liste, Borealis, je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer l'origine de son nom, est le dernier représentant des dragons de glace qui régnaient sur les cimes montagneuses il y a fort longtemps, jusqu'à ce que les géants de feu les terrassent et les forcent à l'exil. Revenons alors à nos dragons anciens, dont nous avions laissé l'histoire et l'explication de leur déclin en suspens. Je ne pense pas avoir besoin de vous faire un dessin. Après l'avènement de l'Arbre-Monde, la puissance des dragons déclina, et un conflit avec l'Ordre d'Or était inévitable. Cela poussa Grand Saxe, le plus majestueux et gigantesque d'entre tous, a attaqué directement la capitale, ce qui donna lieu à un conflit connu sous le nom de Première Défense de Leyndell. Sur l'arme éclair de Grand Saxe, on peut lire la phrase suivante. Grand Saxe était un dragon ancien qui dévasta jadis la capitale royale de Leyndell. Cet assaut vit tomber les remparts de Leyndell pour la première et dernière fois de toute l'histoire, et ainsi débuta la guerre contre les dragons. Grand Saxe fut vaincu, mais cela poussa l'Ordre d'Or à considérer que pour vaincre les dragons anciens, il leur faudrait retourner leurs armes contre eux. Ils utilisèrent alors le granit issu du corps de Grand Saxe pour fabriquer de nouvelles armes imprégnées de foudre, comme la griffe draconique ou le bouclier griffe de dragon, mais aussi des armures comme l'armure draconique difforme, ce qui aboutit à la création des sentinelles draconiques. Cette idée d'utiliser le pouvoir des dragons contre eux n'était cependant pas inédite. Par le passé, les Nox des villes éternelles avaient tenté de créer des soldats draconides, mais comme nous le dit très bien la lame en écaille de dragon, les soldats draconides n'accédèrent jamais à l'immortalité, car ils périrent sans dépasser le stade de pâles imitations de leurs majestueux cousins. Aussi incroyable que cela puisse paraître, et à mesure que les dragons perdaient le combat, un respect et une admiration mutuelle commença à naître entre les dragons anciens et l'Ordre d'Or. Fortisax se lia ainsi d'amitié avec Godwin après avoir été vaincu. C'est pour cette raison que lorsque bien plus tard vous pénétrerez la psyché de Godwin, vous pourrez y affronter Fortisax. Difficile alors de juger s'il s'agit véritablement du dragon ancien ou une simple projection de la psyché de Godwin. La deuxième option me paraît plus raisonnable. Lanceax, la sœur de Fortisax, dont la spécificité est qu'elle peut prendre forme humaine, va de son côté s'éprendre du chevalier Vike et lui accordera son pouvoir. Tous ces événements vont aboutir à la création du culte des dragons anciens et de la communion draconique. Attention alors à bien différencier ces deux cultes. Le premier consiste à accueillir en soi le pouvoir des dragons anciens, et donc à survivre à une imprégnation de foudre, comme c'est très bien expliqué sur l'incantation Bénédiction électrifiante du dragon. On y lit « Seuls ceux que les dragons chérissent parviennent à survivre à l'épreuve consistant à recouvrir son corps de foudre. » Cette pratique est d'ailleurs reconnue par l'Ordre d'Or, car comme nous l'indique le sceau de granit, l'adoration des dragons antiques n'entre pas en conflit avec la religion de l'Arbre-Monde. Tandis que la communion draconique consiste à chasser des dragons mineurs, puis à dévorer leur cœur pour acquérir leur pouvoir. Elle a notamment donné naissance à la caste des chevaliers draconiques qui se parent de leurs trophées de chasse. Sur la description du casque, on apprend que, depuis le jour de leur naissance, les chevaliers draconiques n'ont jamais prononcé le moindre mot. Ils dévouent leur vie entière à la quête de puissance des dragons, inspirés par leur terrible magnificence. Cette pratique présente néanmoins un danger qui nous est expliqué sur l'incantation Souffle de Magma, celui de perdre son humanité. Vous l'aurez donc compris, les dragons du magma comme Makkar ou Théodorix ne sont pas des vrais dragons, mais en réalité d'anciens humains ayant succombé à la communion draconique. Anecdote intéressante, d'après le glaive de Lancéax, cette dernière se déguisait sous les traits d'une prêtresse du culte des dragons anciens. Pour autant, elle aidait les humains lors de la communion draconique, qui consiste à chasser ses congénères plus faibles. Cela montre, selon moi, l'absence totale d'attachement des dragons anciens envers les dragons mineurs, qui s'exprime d'ailleurs très bien dans la description de la lame rocheuse du roi des dragons, une arme très efficace contre les dragons qui existent de nos jours, faibles et ô combien mortels. Je ne serais donc pas surpris que ce soit les dragons anciens eux-mêmes qui soient à l'initiative de la communion draconique. Alors, quid de la défaite des dragons et du devenir de Placidus Ax ? Difficile de dire pourquoi ou comment, mais à un moment de notre histoire, les dragons sont parvenus à déplacer Farum Azula dans les cieux, au sein d'une tempête, dans un lieu hors du temps et de l'espace. Ont-ils bénéficié de l'aide des faucons des tempêtes dans leur entreprise ? C'est possible. Dans ce lieu où le temps s'écoule différemment, on pourra retrouver Placidus Ax, toujours en vie. Sur la pierre de forge des dragons anciens, on peut lire que l'ancien seigneur draconique siège dans un lieu en dehors du temps. Sur l'incantation ruine de Placidus Ax, on lit qu'il vivait autrefois hors du temps et de la mort. Ce qui est intéressant, c'est que le Placidus Ax que l'on affronte n'a pas tout à fait la même apparence que celle dépeinte sur le talisman d'ancien seigneur. En effet, sur l'icône, il semble posséder 4 têtes et les 2 paires d'ailes propres à chaque dragon ancien. Pourtant, lors du combat, il lui manque 2 têtes et une paire d'ailes. Dans quelles circonstances les a-t-il perdues ? J'ai bien peur que ce soit là un nouveau mystère insoluble. Quant à savoir pourquoi Farum Azula tombe en ruine, c'est du côté de l'arme Espadon des Ruines qu'il faut aller chercher. Un fragment de ruine tombé du ciel, transformé en arme. On y lit que les ruines dont elle est issue proviennent d'un éboulement causé par l'impact d'une météorite. L'état de délabrement dans lequel se trouve Farum Azula n'est donc pas forcément dû à la guerre entre l'Ordre d'Or et les dragons, mais possiblement à des chutes de météorites qui peuvent avoir été provoquées par la venue d'Astel le rejeton du vide ou de toute autre créature stellaire. Cet endroit a beau être piégé dans le temps et l'espace, il n'en semble pas moins vivre ses ultimes heures, hanté par les derniers hommes bêtes, dragons anciens, faucons ou squelettes qui daignent bien y vivre, bien loin de son glorieux passé et vestige d'une époque de domination et de puissance depuis longtemps révolue. Merci à vous si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je suis très heureux d'être enfin de retour pour continuer à vous parler d'Elden Ring cette année. Il y a plein de belles choses qui vont arriver dans les semaines à venir, j'aurai l'occasion de vous en parler très bientôt. Si vous souhaitez soutenir mon activité, je vous rappelle que vous pouvez le faire sur la cagnotte Utip de la chaîne. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une très bonne année 2023 et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.